Ah, je vais prendre celui-là. Bon, mais d'abord, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Allô ?
Oui, vous m'entendez mieux. Bonjour, merci de m'avoir invité ici. J'ai appris plein de choses depuis que je suis arrivé. J'ai déjà fait un excellent repas. Je vais commencer par ça en vous disant que le repas était excellent en termes de goût et qu'il était rempli de crème fraîche. Et de façon assez surprenante, mais c'est la réputation qu'il y a dans le nord de la France, c'est-à-dire on mange beaucoup de crème, on mange assez gras, etc. Curieusement, je suis un défenseur de la crème fraîche parce que les gens ne savent pas que la crème fraîche est un produit à 30, pour la crème fraîche originale, hein, je ne parle pas des produits diététiques, on va en parler, c'est un produit à 30 ou 40% de matière grasse et quand on fait le bilan, l'huile est une substance grasse qui contient 100% de matière grasse, qui ne contient pas de cholestérol d'ailleurs, j'en profite pour le dire à chaque fois puisqu'on me poserait régulièrement la question, et le beurre est une matière grasse comme la margarine qui est à 70-72% de matière grasse, alors que la crème fraîche, elle présente deux avantages. Non seulement elle est moins riche en matière grasse que les autres, mais en même temps, comme il y a des produits du lait à l'intérieur, elle va donner du goût, elle permet d'assaisonner un plat. Donc je ne regrette pas d'avoir mangé cette crème fraîche. J'en suis un défenseur, même si les graisses qui sont situées à l'intérieur des substances animales sont en général considérées comme de moins bonne graisse que les huiles végétales. Je voudrais commencer par vous raconter une histoire, c'est la mienne, qui augure de ce qu'est devenu ma discipline, la nutrition. Dans les années 80, je travaillais à l'hôpital et j'avais fait de mon métier une passion et je savais que j'allais être nutritionniste et donc j'étais rentré dans le plus beau service de nutrition qui était à l'époque conduit par Jean Trémolière qui est vraiment le père de la diététique moderne et par mon vieux patron d'aujourd'hui qui s'appelle Apfelbaum qui est à la retraite maintenant. Et donc j'étais extrêmement flatté et je considérais que j'étais devenu une personne importante parce que je sentais que j'allais rentrer dans une discipline qui était majeure et je m'intéressais à ça et donc j'avais une certaine euphorie à être dans ce service et les premiers temps j'ai été me promener, nous n'avions pas de lit d'hospitalisation et j'allais me promener dans les services hospitaliers des autres médecins pour questionner les patients. À l'époque je faisais des études sur le cholestérol, sur les vitamines et je montais dans les services, j'avais une blouse blanche. J'avais pas de stéthoscope puisque j'auscultais pas beaucoup. Et quand je rentrais dans la chambre du patient, de temps en temps la visite s'effectuait, il y avait les autres médecins qui venaient, et j'entendais assez régulièrement quelque chose comme ça qui disait « Mais c'est qui le cuisinier là qui est en train de questionner les patients ?» Donc les gens ne me prenaient pas ne s'imaginaient absolument pas que j'étais médecin, que la nutrition était une matière importante, mais ils me voyaient comme un gars qui parlait de nourriture, et les seules personnes qui parlaient de nourriture à l'époque, ben, c'était les cuisiniers ou bien les assistants cuisiniers. Donc pendant longtemps, dans l'hôpital, quand je me promenais à la cafétéria, les gens pensaient que j'étais le cuisinier. Et en fait, j'étais le médecin nutritionniste de service. Ça me permet de vous dire que l'histoire de notre alimentation, elle est à la fois moderne et ancienne. Si on fait un peu l'histoire de l'alimentation, ça commence quand ? Ça commence à l'ère paléolithique. Nos ancêtres, nos très vieux ancêtres, ils ne savent pas faire grand-chose et ils ne peuvent s'alimenter, d'où l'expression du régime paléolithique, que des fruits qu'ils peuvent cueillir à droite à gauche, accidentellement d'un insecte ou deux, enfin bref, de ce qui pousse, mais ils n'ont pas le choix. Et à ce moment-là, l'homme marche quasiment à quatre pattes, il est peu développé, son cerveau n'est pas développé, il n'a pas toutes ses dents, et puis il va y avoir un bouleversement à l'ère néolithique, il y a très très longtemps, et à l'ère néolithique, ce qui va se passer, c'est que l'homme va commencer à pouvoir attraper du gibier. Il va commencer à cultiver, donc il va manger des produits de la terre qu'il a cultivés lui-même. Il va chasser les bêtes, parce qu'il sait faire des outils pour chasser les bêtes. Il va commencer à manger plus de protéines, il va commencer à devenir éleveur. Et pendant des dizaines de milliers d'années, l'alimentation des hommes ne change pas, jusque dans les années 1950. À cette époque, l'ère néolithique, ce qui va se passer, c'est que l'homme va grandir plus, il va se redresser sur ses deux jambes, ses dents vont pousser et il va devenir un être qui va évoluer jusque dans les années 50. Et c'est seulement en 1950 que l'alimentation va changer. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans l'ère moderne. Et qu'est-ce qui bouleverse l'alimentation à ce moment-là ? Premièrement, l'abondance alimentaire, on commence à avoir beaucoup de choses à manger. Deuxièmement, l'apparition des supermarchés. Et troisièmement, les outils de la conservation. Ça veut dire que vous avez, dans les années 50, l'apparition des réfrigérateurs, des congélateurs. Dans les supermarchés, on commence à avoir des produits qui viennent de partout, et ça va amener, cette ère moderne, l'industrialisation de la nourriture. Les produits les plus anciens se souviennent de l'émotion qu'on pouvait avoir à aller acheter dans un seul bac surgelé les fameuses crêpes de chez Findus, qui étaient des petites crêpes fourrées, qui étaient faites de façon tout à fait traditionnelle, la pâte à crêpes avec à l'intérieur une farce. Et les gens se régalaient de manger ce produit qui est relativement insipide, qui ne se vendrait plus aujourd'hui, mais parce qu'ils avaient un produit tout prêt à mettre dans leur poêle, à conserver dans leur congélateur, et ensuite à cuisiner par la suite. Donc ça, c'était l'arrivée de l'industrialisation de la nourriture. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que puisqu'on pouvait congeler des crêpes, qui ont été quasiment un des premiers plats préparés, ben on a pu commencer à congeler des poissons, puis on a congelé de la viande, puis on a congelé des légumes. Au passage, ce n'était pas une mauvaise technique, la surgélation des légumes, elle était relativement intéressante. Et progressivement, il va y avoir une compétition qui va s'installer chez les industriels, et on va passer d'une alimentation plutôt de type simple quand même, parce que bon, c'est une crêpe, elle est farcie, etc. Mais quand même, quelque part, c'est pas un produit raffiné, on va passer à des produits de plus en plus compliqués. Et vous avez observé ces dernières années ce qui s'est produit à propos de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on est passé d'une étape euphorique, où les supermarchés ont été quasiment le Disneyland de la nourriture, jusqu'à aujourd'hui où on émet une très forte contestation à l'égard des supermarchés. Pourquoi ? Qualité des produits, on n'a plus envie de manger, d'aller acheter dans les supermarchés, on a envie de manger local, on a envie de restaurer le lien avec l'alimentation. Donc toute cette étape s'est produite progressivement et on est arrivé au stade où l'aliment aujourd'hui est en quelque sorte un peu dégradé à notre écart. On a connu très récemment l'affaire des aliments sans. Si vous remontez l'histoire et si vous avez fait un peu attention, moi j'ai fait plus attention pour des raisons professionnelles, moi j'ai connu une première période où on a enrichi les aliments. On a commencé par enrichir les yaourts en calcium, les matières grasses en vitamine D, etc. Parce qu'on pensait qu'on avait des apports nutritionnels recommandés qui nous permettaient de dire que la population française manquait un peu de quelque chose. Donc on a enrichi les médicaments. Donc on a eu des céréales avec des vitamines, etc., etc. Puis un jour, en fait je suis à l'origine de cette histoire, un jour je pointe du doigt un poisson pané qui est fait avec de l'huile de palme. Et j'explique, cette thématique de l'huile de palme, c'est avec mon ami Patrick Serroc que nous l'avons démontré. Je démontre à ce moment-là que l'huile de palme est un produit à haut danger pour le corps humain. Pourquoi ? Parce qu'il est très riche en certaines graisses particulièrement saturées, plus que les autres, et donc il a le pouvoir de nous boucher les artères. Et je dis aux fabricants de ce produit, au fond, tu as des enfants, je ne comprends pas, tu te permets de vendre des poissons panés, tu mets de l'huile de palme à l'intérieur, c'est pas très raisonnable. Ce garçon avait une conscience. Et il me dit, mais t'as raison, au fond, moi je vais enlever de l'huile de palme dans tous mes poissons panés. Et il le fait. Et comme la thématique de l'huile de palme commence à apparaître, il affiche sur ses produits poisson pané sans huile de palme. Quand il met ça sans huile de palme, le public se réveille et lui remporte un très grand succès, c'est-à-dire qu'il écrase tous ses concurrents et les poissons panés sans huile de palme marchent du feu de Dieu. Il est convoqué par l'industrie agroalimentaire qui lui dit « Mais enfin, vous vous rendez compte du mal que vous faites à l'industrie ? L'huile de palme, elle nous est très utile. Vous êtes en train de mettre sans huile de palme, vous avez ruiné vos concurrents et vous démarrez quelque chose qui est hyper dangereux pour vous. » Et le gars répond, « Mais moi, j'ai des enfants et je pense qu'il faut arrêter l'huile de palme. Nous, on a su le faire technologiquement, donc on va continuer à le faire. » Et il ouvre à ce moment-là le chemin de tout le sans quelque chose. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un produit, contrairement à avant où vous aviez un produit enrichi en vitamines, enrichi en protéines, enrichi en calcium, enrichi en je ne sais quoi, vous avez un produit qui sera sans conservateur, sans additifs, sans huile de palme, sans sel, avec 30% de réduction du sucre, blablabla. Je ne sais pas si vous avez observé, les nouveaux sodas qui arrivent, je l'ai remarqué en faisant des photos récemment, il y avait dans le catering, les petits espaces qu'on nous donne à manger pendant qu'on prépare nos trucs, il y avait des tas de boissons sucrées. Il y avait de la limonade artisanale, qui était plutôt pas mal, 30 calories pour 100 ml. Et puis il y avait un soda, un Schweppes je crois, ou je ne sais plus, ou un Fanta. Et j'ai regardé, et en fait j'ai regardé la valeur calorique, elle a été très abaissée ensuite par rapport à ce que je connaissais. Et en fait, sur l'étiquette, il y avait écrit « moins 30% de sucre ». Ça veut dire que la thématique du sucre a fonctionné. Donc le relais dans l'alimentation aujourd'hui, c'est vous. Ça veut dire que quand vous êtes sensible à un argument et quand il vous parle, autrement dit, par exemple, l'huile de palme, vous avez changé vos achats et vous vous êtes mis à acheter des produits sans huile de palme. Vous avez donc aidé l'industriel qui a fait un effort technologique à prendre un produit qui ne contenait pas quelque chose qui aurait pu peut-être être dangereux pour vous. Première chose. La deuxième chose, c'est quand vous avez été sensibilisé au problème des additifs. Ça veut dire qu'est-ce que c'est les additifs ? Alors je vous rassure tout de suite, Tous les additifs, tous les conservateurs, tous les produits de la chimie qu'on utilise dans l'alimentation commencent par un E. Très peu de gens savent pourquoi. En fait, le E, ça signifie Europe. Et après, le chiffre, ça a été un truc de scientifique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sens de la proximité avec le consommateur, c'était de leur donner un numéro. Alors, vous avez des additifs qui, individuellement, peuvent poser des problèmes. En général, ils sont assez bien circonscrits. Il y a une commission qui fonctionne en permanence, qui retrouve, qui décrit le produit tel qu'il est utilisé dans l'industrie agroalimentaire et qui dit s'il a un potentiel de nocivité ou non. Très peu d'entre eux ont réellement ce potentiel de nocivité, même si le consommateur d'aujourd'hui est persuadé que les additifs sont globalement dangereux. Très peu d'entre eux. Certains additifs, ce sont par exemple du jus de citron, du jus de cerise, qui sont des additifs auxquels on a donné un nom, E310, E231, simplement par facilité. Par contre, ce que nous ne maîtrisons pas, ça a été le grand jeu du marketing de l'industrie agroalimentaire, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Ça veut dire quand je mets du E210 avec du E320, ça ne donne pas du E530, ça donne un cocktail que je ne connais pas, et il est impossible aujourd'hui d'affirmer la non-dangerosité de ces produits. Mais pourquoi on mettait des additifs dans les produits ? On mettait des additifs pour plusieurs raisons. Première raison, numéro 1, la plus importante, la conservation. En fait, vous et moi, on est responsables. Pourquoi ? Parce qu'on avait pris l'habitude d'aller dans les supermarchés, d'acheter, de stocker. Donc on avait besoin de produits qui allaient durer longtemps dans nos réfrigérateurs, dans nos placards, partout dans les espaces alimentaires de notre maison. Donc on ne voulait pas un produit qui se périme rapidement. Donc ils étaient obligés de mettre des conservateurs, à la fois pour nous, mais aussi pour eux. Parce que, prenons l'exemple des légumes surgelés. Pourquoi je défends les légumes surgelés ? Un légume surgelé présente une caractéristique, c'est qu'on ne peut pas le congeler longtemps après l'arrachage. Donc ça veut dire que la plupart du temps, dans les usines de congélation, enfin, on arrache le poireau de la terre ou les carottes de la terre très 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 vite. On va se dépêcher de les congeler pour que la couleur ne soit pas altérée, le goût ne soit pas altéré. Donc le produit, en fait, en termes de contenu vitaminique, minéral et d'oligo-éléments, il est quasiment meilleur que le produit frais. En dehors du goût, parce qu'il va y avoir la conservation. Pourquoi il est meilleur que... Il est meilleur sur le plan nutritionnel, en tout cas, parce que bien sûr, il n'aura pas le même goût. Il est meilleur, pourquoi ? Parce que quand vous achetez un légume au marché, en fait, il est venu de l'agriculteur, qui l'a transféré au grossiste, qui le grossiste l'a passé au détaillant, qui le détaillant l'a passé. Pendant tout ce temps, à la lumière, il va y avoir une oxydation des protéines et il va y avoir une perte de valeur nutritionnelle. Donc, ça veut dire que sur le plan nutritionnel, c'était assez avantageux d'acheter des produits surgelés. Ça posait deux problèmes. C'est que la facilité alimentaire, elle a fait perdre aux gens le goût de la cuisine, qu'on est en train de retrouver quand même, elle a fait perdre aux gens le goût de la cuisine. Donc, ça veut dire que le produit surgelé, c'était une porte d'entrée au plat préparé, par exemple. Et le deuxième inconvénient, c'était que quand même, la conservation, elle abîmait le caractère, pardon d'utiliser ce mot, organoleptique de l'aliment, c'est-à-dire les sensations qu'il procurait. Donc on avait d'un côté un avantage nutritionnel, sous réserve bien sûr qu'on ait conservé l'eau qui était à l'origine de la surgélation, et de l'autre côté un désavantage nutritionnel qui était, dont la chaîne était beaucoup plus longue que l'autre. C'est ça ce qui s'est passé au niveau de l'alimentation. Et nous, on a été bonne pomme, comme on l'a été avec l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que l'industrie alimentaire, on l'a subodorant, enfin, on l'a soupçonné d'être une industrie d'utilité publique. En fait, elle n'est pas d'utilité publique. C'est une industrie comme une autre. Ça signifie que son moteur principal, c'est la croissance économique et donc le profit. Et il y a eu comme ça, pendant quelque temps, une espèce de course à l'échalote au travers des produits, à savoir qui allait fabriquer le produit compliqué, le plus sympa à consommer, le moins cher possible. Et pour fabriquer un produit moins cher, ben, il n'y a pas de mystère. On est obligé de rogner sur l'ingrédient. Revenons un peu en arrière. 2008, quand j'écris ce livre, « Savoir manger le guide des aliments ». C'est un fatras incroyable. J'ai tous les aliments qu'on trouve dans les supermarchés, j'ai tout. J'ai depuis la compote, en passant par la bière, etc., avec les listes d'ingrédients, et je comprends rien. Et un jour, une lumière se fait dans ma tête, je suis en train de comparer trois types de produits. Une confiture, de type marque, grande marque, une confiture de la grande distribution, et une confiture du hard discount. C'était à l'époque, hein, ça a changé depuis. Et à ce moment-là, je regarde les ingrédients, et qu'est-ce que je vois ? Je vois que dans la confiture de marque, et une quatrième, la confiture premier prix. Je vois que dans la confiture de marque, j'ai comme premier ingrédient des fruits, comme deuxième ingrédient du sucre. C'est normal, c'est une confiture. Dans la deuxième confiture, celle de la grande distribution, c'est-à-dire Leclerc, Carrefour, Auchan, Casino, etc., j'ai d'abord du sucre et ensuite des fruits. Donc le gain, il a été simple à faire. Ça veut dire que j'ai mis un peu moins de fruits, qui étaient un peu plus chers, et un peu plus de sucre. Mais c'est du sucre. Dans la troisième marque, la marque de distributeur, j'ai d'abord du sucre en premier, ensuite du fruit, mais on a réduit légèrement les quantités. Et dans la confiture de quatrième, de premier prix, qui n'existe quasiment plus, j'ai d'abord du sirop de glucose fructose et ensuite des fruits. Et là, ça c'est clair pour moi. C'est-à-dire que je comprends que pour réduire le coût de l'alimentation, il suffit de travailler sur l'ingrédient. Alors pourquoi le sirop de glucose fructose? Parce que le sirop de glucose fructose, c'est un produit qui est largement produit par les États-Unis. C'est un sirop qui provient du maïs, qui n'est pas cher parce que ça provient des résidus de maïs, qui contient beaucoup de fructose à l'intérieur, avec du glucose, et que ce produit a un pouvoir sucrant très élevé. C'est-à-dire, si je prends une molécule de sucre traditionnel, elle va avoir un pouvoir de 1. Avec le fructose, j'ai un pouvoir 2,4 fois plus supérieur. Donc j'en mets moins, c'est moins cher, et en plus je le mets comme deuxième ingrédient. Donc voilà comment j'arrivais à fabriquer un produit pas cher. Quand on a dit ça, on a eu un tollé de la part du hard discount, un tollé de la part de l'industrie agroalimentaire, qui a dit ces types sont des assassins, ils nous menacent, etc. Mais sur le plan scientifique, j'avais raison. Pourquoi? Parce que le sirop de glucose fructose, que vous retrouvez encore aujourd'hui, regardez bien les étiquettes de ce que vous achetez, c'est un sirop qui a été démontré comme étant celui qui avait été à l'origine de la courbe de progression de l'obésité aux États-Unis. C'est un sirop qui se métabolise en graisse beaucoup plus vite que le sucre. C'est un sirop qui donne en particulier une maladie que vous connaissez maintenant qui s'appelle NASH, dont mon copain Pierrot Ménès a été victime. Pourquoi? Simplement parce que ce sucre, ce fructose se métabolisant en graisse, et que cette graisse arrivait dans le foie, ça donne ce qu'on appelle des foie gras. Et tant qu'on a un foie gras, ça va bien. Mais quand le foie gras va évoluer, eh bien, ça passe au stade de la cirrhose, et le type a beau expliquer qu'il ne boit pas d'alcool, en fait, il a une NASH, c'est-à-dire un syndrome du foie gras, et donc, il aura une cirrhose, et à un stade ultérieur, cette cirrhose, elle va bouffer le foie complètement, et ça va se transformer en cancer. Donc, le sirop de glucose fructose, quand on en consomme une fois de temps en temps, ça va, mais si on en consomme régulièrement, ça ne va pas du tout. Or, ce qui s'était passé à cette époque-là, c'est que le sirop de glucose fructose qu'on avait utilisé dans certains produits, ben, ils se sont passés le mot, les petits copains, entre eux. Et ils ont dit, ben voilà, sirop de glucose fructose, c'est super, c'est pas cher, on en met moins, etc. Et donc, on en a retrouvé dans quasiment tous les produits. Et ce qui faisait qu'on avait raison de dénoncer ça, puisque ce produit était, à la limite, non pas toxique, mais n'était pas un produit avantageux pour la santé. Voilà ce qui s'est passé pour la nourriture. Deuxième réflexion, qu'est devenue notre nourriture? Alors, qu'est devenue notre nourriture? Voilà, on a parlé tout à l'heure, en termes vagues, histoire d'introduire ce débat, de l'ère paléolithique. À l'ère paléolithique, on mange des graines, des fruits, des légumes, etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avant, ils n'avaient pas de chance. Ils ne pouvaient pas cultiver, ils ne pouvaient pas faire des choses, manger des graines. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Combien d'entre vous dans la salle ont déjà acheté des graines de chia, des baies de goji, des graines de lin, tous ces produits magiques qui sont entourés d'une réputation très avantageuse? Donc finalement, on observe comme une forme de régression de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a su hyper développer nos aliments, on est capable de nourrir l'ensemble de la planète, on est capable de nourrir pas l'ensemble de la planète, mais en tout cas le monde occidental. En France, on déborde sous l'abondance, et parallèlement à ça, vous, moi, on a une espèce de méfiance vis-à-vis des aliments qui fait qu'on veut manger local, on veut manger un produit qu'on connaît, simplement parce que vous savez quoi ? L'emballage des aliments, la distribution par la grande distribution, ça nous a détachés de nos aliments. On n'est plus comme auparavant, c'est-à-dire qu'on comprend plus ce qu'on mange. On mange en fonction de critères qu'on ne maîtrise pas tout le temps. Et d'ailleurs, pourquoi on mange? Vous savez pourquoi on mange? Dans l'ensemble, on mange parce que c'est bon. La réponse, elle est stupide, mais elle est vraiment exacte. On mange parce que c'est bon, parce que qui d'entre nous connaît aujourd'hui la faim? Qui d'entre nous est capable de dire ce que sont les symptômes de la faim? Vous savez ce que veut dire le symptôme d'un malaise? D'un malaise par défaut d'alimentation. Mais quand vous dites, par exemple, « Je sens que j'ai faim parce que j'ai l'estomac qui gargouille », aucun rapport. Vraiment, il n'y a aucun rapport avec la faim. L'estomac gargouille parce qu'il gargouille, peut-être parce qu'il est vide, mais en tout cas, vous n'avez pas faim. Il gargouille, donc ça vous donne un signal. Aujourd'hui, vous mangez surtout pour des critères sociaux. Par exemple, et c'est ce qui fait notre avantage à nous Français, nous, les Français, on mange le matin au petit déjeuner, on mange au déjeuner, mais on mange entre 11h30 et 14h30. À 15h30, c'est difficile de trouver un restaurant ouvert. Et on mange de, allez, mettons, 19h à 21h. On a un rythme social. Quand on parle de ces trois repas, c'est l'introduction à cette notion des trois repas. Est-ce que c'est important les trois repas? Alors oui, vous avez la publicité à la télévision. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. En fait, c'est un rythme de poésie. C'est-à-dire le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est un rythme de poésie. Mais c'est un slogan, car le petit déjeuner n'a pas plus de valeur que le déjeuner ou que le dîner. Si on remonte l'histoire, on se rend compte que nous, ici en France, on est passé d'un modèle à un repas par jour à un modèle à trois repas par jour, en ayant au milieu une phase à quatre repas par jour et une phase à deux repas par jour. Quand on étudie, ça a été le travail de deux anglo-saxons pourtant, quand on étudie l'intérêt du petit déjeuner, on se rend compte de quelque chose, c'est que les gens qui ont l'habitude de prendre un petit déjeuner, si on le leur enlève, en fait ils ont une baisse de leur activité intellectuelle vers 11h, mais les gens qui ont l'habitude de ne pas prendre de petit déjeuner ont exactement le même rythme que les autres, la même acuité intellectuelle, la même activité. Et pourtant, ce slogan, il est rentré dans les têtes de tout le monde. Qui il a avantagé? En fait, pourquoi il a avantagé les gens? Il n'est pas avantagé parce qu'il vendait le petit déjeuner. Le modèle de petit déjeuner français, c'est pain, beurre, confiture, compote de fruits, yaourt, c'est pas autre chose. Il a avantagé, donc pas le petit déjeuner anglo-saxon, les haricots, la saucisse, etc., le bacon et les œufs. Il a avantagé les vendeurs de céréales du petit déjeuner. Pourquoi? La translation, elle est facile à faire. Les céréales, le petit déjeuner est un repas important. Et puis, parallèlement à ça, on vous instille le développement des céréales du petit déjeuner. Et finalement, par un effet de simplification, on en est arrivé à, au lieu de prendre du pain, d'aller acheter, de décongeler, de le cuire, mettre du beurre dessus, etc., qui est une opération longue, on est arrivé, à cause des temps modernes, à simplifier les choses. Et c'est tellement pratique de verser un machin dans un bol, de jeter du lait dedans, de le manger à toute allure et de considérer, parce que sur la boîte, on vous a bien dit que le petit déjeuner équilibré, c'était les céréales, le lait et la compote de fruits, et de se dire, bon, au fond, j'ai mangé équilibré puisque tout le monde me l'a dit, que c'est le repas le plus important et que j'ai mangé quand même. Mais l'histoire des céréales du petit déjeuner, les céréales du petit déjeuner n'arrivent en France réellement qu'en 1970. L'histoire des céréales du petit déjeuner, elle débute aux États-Unis, à la moitié du 19e siècle. Il y a un pasteur qui s'appelle le pasteur, vous le connaissez, il s'appelle le pasteur Kellogg's. Et le pasteur Kellogg, il dit à ses ouailles, il leur dit, en fait, dans la Genèse, dans un chapitre du Lévitique, il y a un chapitre où on dit, tu ne mangeras que des graines germées ou que des produits qui viennent de la terre. Et il dit à tous ses fidèles, ben voilà, il faut manger ça. Donc il commence à manger des produits qui sont des céréales originales, c'est-à-dire des grains de blé, des grains d'orge, des grains d'avoine, etc., pas du tout ce qu'on mange aujourd'hui. Et ils mélangent et puis ils en mangent, après tout pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est qu'une céréale? C'est un produit qui nous apporte essentiellement des sucres lents, ça veut dire des sucres qui vont fournir l'énergie à notre corps pour qu'on bouge, pour qu'on soit actif, pour notre cerveau qui consomme 25% du total de calories de ça. Elles vont apporter ça, donc c'est un produit important, mais lui il les sert comme ça. Et il a un concurrent qui s'appelle le pasteur Grant. Le pasteur Grant, il essaye d'avoir plus de fidèles que le pasteur Kellogg, mais il donne les mêmes principes, c'est-à-dire il faut manger les céréales du petit déjeuner. Et le pasteur Grant, il représente une autre frange de la population aux États-Unis qui s'appelle les Quakers. Les Quakers, c'est Quakers. Et donc, ces gens-là font la promotion des céréales du petit déjeuner, sauf que ces céréales du petit déjeuner, qui sont quand même relativement difficiles à manger, et aucun d'entre nous ne prend des grains d'orge ou des grains de blé pour le mettre dans du lait le matin, eh bien on va les transformer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer par les chauffer pour les ramollir, puis ensuite on va les mouler, on va les faire passer dans un tapis avec des presses pour les mouler, on va leur donner la forme qu'on veut, et on va commencer comme ça avec les cornflakes originaux, c'est-à-dire les grains de maïs. Deux problèmes. Quand on chauffe une céréale, on change la distribution du sucre à l'intérieur des céréales, donc ça veut dire qu'on va passer d'un sucre lent qui est relativement bien absorbé par le corps et très important à un sucre rapide qui va poser plus de problèmes puisqu'il se change plus rapidement en graisse, qui stimule plus l'insuline, etc. Ça c'est le premier problème. Deuxième problème, ils ont découvert qu'à partir d'un grain de maïs, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et donc on commence par des Quakers, des cornflakes simples, et puis on va se dire, tiens les enfants ils préfèrent quand il y a du chocolat. Donc on va mettre un mélange quand on va les faire tremper avec du chocolat. Puis le concurrent d'à côté, il dit, mais au fond, si on les sucrait plus, ça serait meilleur. Si c'est meilleur, les gens vont en consommer plus. Pourquoi? Parce que le sucre, je crois que je l'ai dit dans une émission de télé, le sucre est plus addictif que la cocaïne. Quand on met des rats dans des cages et qu'on met d'un côté du sucre et d'un côté de la cocaïne et qu'on transfère les cages, Et bien, on se rend compte que les rats qui étaient dans la cage du sucre sont deux fois plus excités que les autres quand on les met en situation de manque. Parce que le sucre, c'est important pour notre corps, ça active les circuits de la récompense. Donc le gars rajoute du sucre et succès auprès du consommateur, parce que le consommateur, à ce moment-là, il ne s'occupe pas trop des paramètres santé, etc. Succès auprès du consommateur, et d'un seul coup, il va faire passer les céréales peu sucrées aux céréales sucrées. Alors le candidat des céréales peu sucrées, il a une idée, il a dit « je vais faire autant de sucre que le copain d'à côté, mais je vais donner plus de relief à mes céréales. Alors pour leur donner plus de relief, je vais rajouter des produits gras. Donc il va créer des céréales soufflées, puis il va les farcir avec du chocolat. Au passage, on est passé d'une valeur calorique de 370 calories à peu près aux 100 grammes à une valeur calorique qui approchera les 540, les 560. Mais qu'est-ce qui a changé pour le consommateur ? Eh bien, en train de compter ses calories comme un petit idiot, à se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas ? Il a pris les céréales, elles étaient meilleures, il en achète régulièrement. Il en prend 50 grammes tous les jours, il a augmenté sa ration calorique d'environ 120 à 140 calories. Bon, c'est pas grand-chose. Mais au passage, les yaourts, c'était la même chose. Donc il est passé du yaourt traditionnel à un yaourt qui est enrichi, ou à un yaourt qui est crémeux. Exemple typique, pardon pour ceux qui en consomment, les gens qui prenaient du Fjord, c'était une variété de yaourt, personne n'avait remarqué qu'on rajoutait de la crème fraîche à l'intérieur. Mais il va rajouter un peu de crème fraîche. Puis il prend de la baguette. Il préfère la baguette, en fait, ce qu'il préfère, c'est des baguettes particulières. C'est-à-dire que ces baguettes aussi, elles ont changé. Avant, on avait juste la baguette, puis elle est devenue tradition. Qu'est-ce que c'est la baguette tradition ? C'est une baguette dans laquelle on a rajouté beaucoup plus de gluten, on en parlera tout à l'heure, de telle façon à ce que le pain soit plus moelleux. Donc il va consommer un peu plus de gluten. Puis après, ça sera pareil pour le chocolat, c'est-à-dire au lieu de manger du chocolat simple, il va manger du chocolat aux amandes, au passage les amandes vont enrichir le chocolat, etc., etc. Et finalement, notre consommateur, il va passer d'une alimentation qu'il avait calibrée auparavant à une alimentation qui est beaucoup plus riche, mais il s'est rendu compte de rien. Et il aura deux types de problèmes, il aura les problèmes métaboliques. Pourquoi a-t-il du cholestérol pas dur hein. Il mange des produits plus gras, auparavant enrichis à l'huile de palme. Il aura plus de sucre, donc il va avoir tendance à grossir, il aura plus souvent des problèmes de diabète qui seront amplifiés par le fait que, justement, comme il a un taux de sucre plus important mais qu'il est encore plus gros, ça amplifie les problèmes de diabète et on se retrouve avec une génération de gens qui ont des problèmes sans s'en rendre compte. Donc voilà ce qui s'est passé en termes alimentaires, sans compter le fait que l'alimentation, elle a ceci de spécifique que c'était l'introduction de ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on mange parce que c'est bon et donc on remange parce que c'est bon. L'exemple type de qu'on mange parce que c'est bon, c'est il faut le prendre à contrario. Quand vous avez une personne qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer, en fait, cette personne ne pense pas à manger, elle ne pense pas à boire, elle ne pense pas à manger. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas la conscience de l'alimentation et du côté agréable de l'alimentation. Donc on mange parce que c'est bon, donc plus c'est bon, plus on mange. Et on trouve que c'est bon simplement parce qu'on flatte le goût avec le sucre, avec la graisse, parce que c'est la technique qui marche la plupart du temps. Quand vous prenez un produit sucré, si vous rajoutez de la graisse, vous amplifiez le goût du sucre et vous rendez plus harmonieux l'ensemble. Donc la recette de l'alimentation, c'est globalement, il faut plus sucré et rendre plus gras. Sauf que on a changé, on est devenu des consommateurs avertis. Alors trop avertis, j'ai entendu le maire de la ville, que je félicite d'ailleurs pour avoir rendu le sport gratuit dans cette ville. C'est une initiative exceptionnelle, je ne sais pas comment il fait, mais c'est un magicien apparemment. Et donc, c'est ce que le maire vous a dévoilé tout à l'heure quand il vous a dit que, on va en parler également des résidus de pesticides, quand il vous a dit qu'il y avait une façon d'éliminer les pesticides qui était une autre façon que d'acheter du bio. Mais je voudrais revenir sur, je suis à peu près persuadé que vous imaginez manger comme vous avez choisi de manger. Eh bien, c'est faux. C'est complètement faux. Vous mangez pour plein de raisons. Vous mangez d'abord parce que vous êtes issu de familles qui ont des traditions alimentaires. Et c'est ça qui s'est passé avec les temps modernes. Ça veut dire que, souvenez-vous, les mères de famille auparavant, le samedi ou le dimanche, elles prenaient un cahier, elles faisaient leur budget, elles définissaient les menus de la semaine, et elles allaient acheter au marché en fonction de ce qu'elles avaient défini comme menu et des prix du jour. Il y avait une véritable économie de l'alimentation. C'est revenu d'ailleurs assez récemment avec ce livre qui a bien marché, qui s'appelle « Le Batch Cooking ». Le batch cooking, c'est une femme qui a trouvé ça particulièrement astucieux de régénérer ce système en disant ben, « Vous allez passer toute l'après-midi du dimanche à cuisiner », ce qui en fond n'est pas très facile. Mais enfin, moi, je demande à ma femme de le faire. normal. Non, non, c'est pas vrai, elle accepterait jamais. Et puis, vous allez redistribuer ça dans la semaine. Ceci dit, c'est vachement intelligent. Parce qu'en fait, non seulement vous allez savoir ce que vous avez mangé, vous ne serez pas tenté, vous aurez organisé votre nourriture, vous allez l'organiser en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres à la fois plaisir et à la fois santé. Je maintiens qu'il faut absolument conserver le plaisir dans l'alimentation. C'est un outil fondamental. Un éminent psychiatre de Caen disait cette phrase très juste. Il disait « La vie est un équilibre des plaisirs ». Ça veut dire quoi, un équilibre des plaisirs ? C'est-à-dire que votre vie, elle s'équilibre entre le travail, la famille, la nourriture, les drogues que vous consommez, tabac, alcool, etc. Oui, je classe l'alcool dans les drogues. Et la vie est un équilibre des plaisirs. À partir du moment où vous déséquilibrez un espace, alors vous le rééquilibrez autrement. La meilleure preuve, c'est quoi ? Quelqu'un qui arrête le tabac, ben, il mange plus. Quelqu'un qui arrête de manger, ben, il fume plus. Quelqu'un qui arrête le tabac et la nourriture et qui se met par exemple à un régime, ben, il est tendu, il est nerveux, il va avoir tendance à compenser autrement, il va demander quelque chose pour qu'on l'aide à dormir, etc. etc. Donc, comme la vie est un équilibre des plaisirs, on a intérêt à conserver le plaisir de l'alimentation. Je reviens à ce que je disais, vous croyez manger comme vous mangez en fonction d'une tradition alimentaire. Les plats que vous faites ben, représentent à peu près l'histoire familiale dont vous êtes issu avec les aliments que vous aviez l'habitude de consommer. Deuxièmement, vous mangez en fonction de votre origine géographique. Exemple, la crème fraîche de tout à l'heure. Tout à l'heure, tiens, je vais vous dire mon repas, vous allez rigoler. D'abord, il y avait un gâteau de crêpe avec de la crème et une sauce très bonne hein, qui était enrobée par une feuille de brique. C'était très bon, un peu gras, mais très bon. Et ensuite, il y avait des coquilles Saint-Jacques, pas grillées, en crème, avec des petites pommes de terre farcies avec du riz à l'intérieur, un peu crémeux, et avec des champignons qui avaient bon goût. Mais pourquoi il a fait ça ? Parce que la crème, c'est une tradition géographique. Voilà. Donc, il cuisine à la crème. Et dans le sud de la France, on va manger des beignets de courgettes qui ont frit dans l'huile, on va manger un poisson avec de l'huile d'olive, etc., etc. Donc, mais sauf que dans le sud de la France, ils vont manger peu de céréales, ici on en mangera plus, qu'ici ils vont manger des tomates, qu'ici on va manger autre chose. Donc vous mangez en fonction de votre origine géographique, c'est le deuxième facteur. Troisième facteur, vous mangez en fonction de votre pouvoir économique. Quand vous n'avez pas d'argent, ben, faut bien se débrouiller. Quand j'étais étudiant en médecine, je vais faire un aveu ici, mes parents étaient partis et j'étais tout seul, et ce qui était le moins cher et qui venait d'apparaître à Paris, c'était le McDonald's. Donc je mangeais midi et soir un McDonald's. Voilà, c'était pas du tout équilibré, mais j'avais pas le choix. J'avais 5 euros par jour, voilà, fallait manger, fallait travailler, fallait payer l'essence, etc. Donc le pouvoir économique, c'est déterminant. Et la quatrième chose, ça va être l'environnement alimentaire. Ça veut dire, qui vend les aliments ici aujourd'hui ? Ben, ceux qui les produisent ou ceux qui les transfèrent. Donc, vous achetez aussi en fonction de ce qu'on vous propose à acheter. C'est ça qui me fait rigoler avec l'affaire des pesticides. C'est que les gens ne mesurent pas. Aujourd'hui, j'aime bien qu'on soit radical. C'est bien de dire, on va respecter le principe de précaution. On arrête les pesticides en France. OK, production alimentaire diminuée de 40 à 50%. Les prix vont monter comme ça. Allez donc demander aux gens de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est impossible. C'est impossible. Vous allez faire venir de Grèce, d'Espagne, de Turquie, de Biélorussie, etc. C'est impossible. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut jamais distancer, au travers de ce que je viens de vous dire, on ne peut jamais distancer l'alimentation de tout un tas de facteurs, en partie également économiques. Et je rappelle la situation, je rappelle que dans les années 1950, on s'est moqué de Pierre Mendès France qui avait distribué du lait dans les écoles, on l'appelait Mendès Lolo. Pourquoi il distribuait du lait ? Parce que les gosses étaient carencés. Mais on avait du lait à distribuer. On pouvait distribuer parce qu'on avait des excédents laitiers, donc on a distribué du lait. Donc il ne faut jamais oublier ça. Dans la furia actuelle sur l'alimentation, c'est qu'on a une dimension économique dans l'alimentation qui fait que l'alimentation est une forte inégalité. C'est une forte inégalité. Le bourgeois qui a vraiment plein d'argent et il peut manger tout ce qu'il veut, et le gars qui n'a pas beaucoup d'argent et qui a un budget extrêmement étroit comme moi avec mon McDonald's, ben celui-là, il est obligé d'acheter ce qu'il peut acheter. Donc il ne va pas choisir le produit le plus beau, le plus réservé, il va choisir un produit de nécessité. Et c'est là-dessus que les lois actuelles, qu'on essaye de faire bouger les lignes en demandant de diminuer la TVA sur certains produits, de ne pas taxer du tout les produits de première nécessité pour alimenter correctement des gens qui sont en face d'une inégalité sociale dont on ne parle jamais, qui est celle de la nourriture. Enfin, le cinquième facteur le plus important, un des plus importants, c'est le marketing alimentaire. Vous êtes devant votre écran, vous regardez quelle que soit la chaîne de télé que vous regarderez, vous aurez à un moment donné un flash sur un aliment. Et quand vous aurez entendu 20 flashs, vous serez automatiquement conduit, quand vous serez en présence d'un aliment, dans un supermarché ou ailleurs, vous serez conduit à le tester, à l'essayer, à l'acheter, etc. Et ce conditionnement alimentaire par le biais du marketing, il est extrêmement puissant, il est extrêmement insidieux et il est extrêmement inconsciemment porteur de vos achats. Donc finalement, nous mangeons, nous croyons que nous mangeons en fonction de ce que nous voulons manger, mais nous ne mangeons pas réellement en fonction de ce que nous voulons manger, nous fonctionnons en fonction de différents arbitrages qui font qu'on passe à la moulinette de ces arbitrages avec la nourriture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ben aujourd'hui, il y a une peur alimentaire qui s'est installée globalement. Alors, un mot sur les résidus de pesticides. Je viens de finir un travail, un livre complet, sur ce livre s'appellera « La peur au ventre », sur l'ensemble des peurs alimentaires qui nous conduisent à l'heure actuelle. Le numéro un de ces peurs, quand on questionne les Français, c'est les pesticides et les résidus de pesticides. J'ai regardé le sujet en regardant toute la littérature, mais plus large que l'Europe, aux États-Unis. Et ce que j'ai constaté, c'est la chose suivante. Aujourd'hui, on ne peut affecter aux pesticides que deux maladies, que trois maladies, que quatre maladies, qui sont les lymphomes, c'est-à-dire certains cancers du sang, en particulier la maladie de Hodgkin, qui est aussi un lymphome. La deuxième chose, c'est le cancer du poumon. La troisième chose, c'est le cancer de la vessie. C'est les trois seules choses. Pour tout le reste, il n'y a aucune différence significative entre une population qui a mangé de l'alimentation conventionnelle par rapport à une alimentation biologique. Aucune. Donc ça veut dire que c'est à contre-courant de la pensée unique, mais c'est une réalité. Je n'y peux rien. Donc les résidus de pesticides, tout le monde en parle et tout le monde pense se protéger en consommant bio. Est-ce que vous savez que le chlordécone, qu'on a pulvérisé depuis pendant les 50 dernières années dans les sols français, a une durée de vie de 2 à 3 décennies. 2 à 3 décennies. Pouvez-vous m'expliquer comment on va faire un produit bio sur un sol qui a reçu à un moment donné de la chlordécone ? Les bananes qui viennent de Martinique ou de Guadeloupe ont été irriguées avec des produits dont la durée de vie est de plusieurs siècles. Pouvez-vous m'expliquer ? Alors, bien sûr, ils sont surpris. Il y a des pesticides dans les bananes de Martinique. Ben, ouais, les gars, vous avez répandu. Aujourd'hui, ben, vous savez ce que vous méritiez. Donc, déjà ça, quand vous lisez dans la presse ou quand vous entendez, oui, il y a toujours des titres à sensation. On a pris 22 sujets et on a regardé leurs urines et machin, et on a vérifié. Ben, ils avaient tous des résidus de pesticides. Ben, ouais, les gars. Mais ici, dans cette salle, il n'y en a pas un qui n'en a pas. Il n'y en a pas un. Tout le monde en a. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement les pesticides qu'on répandait. Les pesticides qu'on répandait, ils passaient ailleurs. Ils passaient dans les sols, mais ils passaient aussi dans les eaux. Et puis les pesticides qu'on répandait, ils se transportaient dans les airs. Donc ça veut dire que les résidus de pesticides, aujourd'hui en France, on en a tous à l'intérieur de notre corps. On en a d'ailleurs moins que les Suisses. C'est assez bizarre, parce que les Suisses, pourtant, c'est un pays agricole plutôt réputé pour être sain. Le problème, c'est de savoir quel impact sur notre santé. Et la réponse, je viens de vous la donner. On a trois types de cancers qui sont vraiment affectés. Et encore, ces types de cancers, ils concernent essentiellement, un, les populations exposées, qui sont ceux qui travaillent dans l'industrie pétrochimique, donc l'alimentation, dans les pesticides. Deux, les agriculteurs à qui on pourrit la vie, qui est la population la plus exposée. C'est chez eux qu'on a les lymphomes, les cancers de la vessie, les cancers du poumon. C'est chez eux qu'on les a. Troisièmement, les femmes qui allaitent, probablement. On a une relation avec les femmes allaitantes. Donc ça veut dire que c'est vrai, quand on allait, il faut prendre des précautions. Quatrièmement, les gens qui sont en stricte périphérie, des champs qui sont épandus. Donc, quand vous avez vu le débat sur les 5 mètres, les 150 mètres, etc., ce que personne n'a dit, c'est que ce qu'avait dit les organismes scientifiques, pas le gouvernement, ils répètent ce que disent les organismes scientifiques. Ce qu'ils avaient dit, c'est OK pour 5 mètres, mais à une condition, c'est qu'il y ait des machines spéciales qui travaillent à même le sol quasiment pour pas qu'il y ait de dispersion des produits à l'intérieur de l'air. Donc c'est un débat qui méritera d'être réveillé et qui sera tranché. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique sérieux qui sera capable d'affirmer que le bio. Alors oui, il y a ce que j'appelle les turiféraires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des titres à sensation. Mais au jour d'aujourd'hui, on a deux choses qu'on connaît. Un, quand on compare les avantages du bio par rapport au non-bio, on a autant d'avantages dans le bio que d'avantages dans le conventionnel. Ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont vachement mieux dans le bio, mais il y a des trucs qui sont vachement mieux dans le conventionnel. Donc on a concluant en disant qu'il n'y a pas de différence significative, donc manger bio n'apporte rien. La deuxième étude, ça a été l'étude plus récente, il y a quelques mois, qui a montré que les gens qui mangeaient bio avaient moins de probabilité de déclencher des maladies que les autres, mais ils ont pondéré ça de façon intelligente en disant surtout ceux qui consomment des aliments super transformés, c'est-à-dire les aliments hyper transformés, c'est ce dont je vous parle, les produits céréaliers, etc. Il n'y a qu'un seul produit pour lequel je suis absolument déterminé à faire le bio, c'est pour tout ce qui sera produit complet. Pourquoi ? Parce que quand vous aspergez un champ, ben vous aspergez les graines des céréales qui poussent ou des produits qui poussent, et en fait, quand vous prenez un produit complet, vous avez conservé l'écorce. C'est là-dessus qu'a été le pesticide. Donc effectivement, quand j'achète du pain complet, c'est un peu mieux. Quand j'achète de la farine complète, c'est un peu mieux. Surtout si c'est en bio. Voilà, pour ces produits-là. Par contre, pour les fruits et les légumes, il vous a révélé la stratégie. L'histoire du vinaigre ne marche pas. On ne sait pas pourquoi cette rumeur a pris. Le vinaigre n'a jamais éliminé les pesticides dans un produit. Par contre, vous avez deux techniques pour éliminer les résidus de pesticides. C'est pas mal de le faire. C'est un, revenir à l'ancienne, c'est-à-dire laver ses fruits. Est-ce que vous avez vu dans les collèges et dans les lycées des gosses laver des fruits à la fontaine ? Non, ça n'existe plus. Hein. Ils ont l'habitude d'avoir le produit en sachet et de s'en servir. Et puis voilà, c'est normal qu'on s'en serve directement. Donc laver ses fruits, de temps en temps même les éplucher si vous voulez. Et la deuxième solution, c'est d'acheter ce qu'on appelle le bicarbonate de soude alimentaire. Je dis alimentaire, mais ça n'existe pas vraiment hein, alimentaire. C'est-à-dire c'est du bicarbonate de soude, mais maintenant ils le vendent en grande quantité dans les supermarchés. Aussi en partie à cause de ça. Vous en mettez 2 cuillères à soupe dans votre bac à évier. Vous laissez tremper vos légumes ou vos fruits pendant 15 à 20 minutes et vous avez une diminution de 90 à 95% des résidus de pesticides sans avoir à peler vos fruits. Parce que c'est vrai que quand on parle du pouvoir des aliments, par exemple, c'est à la surface des aliments qu'on trouve les produits les plus intéressants. Les gens qui mangent la croûte, par exemple, du camembert, ce sont des gens qui ont raison parce que le calcium migre à la surface du camembert. Donc c'est intéressant. Les cuisiniers mangent toujours les poissons, la peau des poissons. Parce qu'ils disent que c'est là où il y a le plus de goût du poisson, parce qu'effectivement, les minéraux, les oligo-éléments remontent près de la peau, donc ils mangent le poisson. Les copains de grands cuisiniers que j'ai, ben, ils écaillent bien le poisson, mais ils mangent la peau, chose qui nous paraît absurde à nous, mais j'ai goûté, c'est pas mal, c'est vrai, ça a plus de goût que le reste. Donc, ça veut dire que quand vous mangez un fruit ou un légume, je vais vous donner un autre petit truc après, c'est vrai qu'en mangeant la peau, vous mangez plus de substances intéressante sur le plan nutritionnel. Et quand je vous dis ça, c'est aussi parce que quand vous mangez un aliment, il a un pouvoir cet aliment, il a le pouvoir de nourrir votre corps parce que vous en avez besoin. Alors aujourd'hui, on a les peurs alimentaires, et puis à côté des peurs alimentaires, on laisse passer certains produits comme le plastique. Il y a beaucoup plus de preuves de la toxicité directe des plastiques aujourd'hui sur l'organisme qu'il n'y en a sur les résidus de pesticides. Les résidus de pesticides, c'est l'arbre qui masque la forêt, en fait. On en parle beaucoup parce que ça simplifie le discours pour le consommateur. C'est facile à comprendre. Pesticides, un champ, des pesticides, je les avale, je suis malade. C'est facile. Le plastique, c'est beaucoup plus subtil, parce que le plastique lui-même, on ne l'avale pas. Mais le plastique, il redistribue des substances. Ça veut dire que, par exemple, j'arrête pas de dire, partout où j'ai l'occasion de le faire, arrêtez de faire chauffer des emballages plastiques dans votre micro-ondes. Quand vous faites chauffer un emballage plastique dans votre micro-ondes, vous êtes à peu près sûr de relarguer à l'intérieur des résidus de plastique. C'est quoi le plastique ? C'est un dérivé du pétrole. Vous êtes sûr d'en faire passer. Donc arrêtez de faire ça. Revenez aux outils principaux de la cuisine, que sont notamment la pierre, la céramique. Et rien ne vous empêche d'acheter ce que vous voulez, mais de désemballer le produit, de le mettre dans un plat en verre et de le faire chauffer après. De la même façon, je ne peux pas vous demander d'acheter des bouteilles de verre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous achetez des bouteilles d'eau en plastique, on le sait, ça se dégrade, ça passe dans la flotte et on l'avale. Par contre, on n'est pas capable aujourd'hui de dire ce que ça donne, ce que ça provoque et les relations qu'on peut faire, mais on le saura dans quelques temps. Donc le plastique, c'est un produit important. Les perturbateurs endocriniens, c'est un produit important, mais vous en avez partout autour de vous. Pareil que les nanoparticules, chaque fois que vous avez un appareil ménager, etc. Donc la conclusion de tout ça, je vois que vous êtes en train de vous effondrer. La conclusion de tout ça, c'est que vous ne maîtrisez rien. Donc tout le monde s'est fixé sur les résidus de pesticides, mais l'environnement pollué, il existe. On est dans un monde globalement qui est pollué, mais on a une chance dans tout ça. C'est que les progrès de la médecine n'ont jamais été aussi violents. Je lis récemment, on est en train de traiter certaines maladies par l'immunothérapie. on est en train de traiter certains cancers. Le cancer du sein, son pronostic a été totalement bouleversé. Le cancer du testicule, qui était mortel à ma période, a été radicalement transformé. On a fait des progrès stupéfiants. La seule chose qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est les maladies de la dégénérescence du cerveau. Peut-être pour les croyants, parce qu'on ne maîtrise pas Dieu. Ça veut dire que peut-être qu'il a décidé que même si on faisait des progrès, il réussirait à nous faire revenir vers lui. Mais c'est ça qu'on ne maîtrise pas à l'heure actuelle. C'est la qualité de la longue vie. Mais faire subsister un organisme, on y arrive très très longtemps. Pour en revenir à l'histoire de l'Alzheimer, on parle beaucoup des super aliments. Donc chaque année, on a son lot. On a eu les baies de goji, on a eu, ben, je voyais madame, vous avez, quand j'ai parlé des graines de chia, ça vous parle, les graines de lin, tous ces produits qui apparaissent chaque année, produits magiques, les cranberries, la grenade, merveilleuse, la grenade. Et en fait, quand vous prenez chacun de ces produits, c'est vrai qu'ils contiennent à l'intérieur une substance positive. Il y a une substance qui est intéressante. Mais le problème, c'est que pour que ça guérisse ou que ça prévienne, en ce qui concerne les graines de chia, la bonne ration, c'est 500 grammes par jour. Si vous voulez avoir assez de polyphénol, c'est 500 grammes par jour. Et c'est pareil pour les baies de goji, etc. Donc quelle valeur ça a? Ça n'a rien du tout, ça a simplement une valeur psychologique. Ça veut dire que ça nous rassure par rapport à ces peurs alimentaires que nous avons, que je viens d'alimenter avec des noms comme les nanoparticules, etc. Eh bien, ça nous rassure. On va prendre un super aliment. Je suis Obélix, j'ai pris la potion magique, j'ai guéri. Donc, on va prendre ça et puis ça se fait à grand renfort de marketing. Je vous annonce cette année, ce qui va marcher cette année, puisque je suis un peu au courant, toujours en avance, ce sera la poudre de baobab. La poudre de baobab. Vous avez peut-être commencé déjà à la voir. On va avoir la poudre de baobab. Vous croyez que vous avez... c'est nouveau tout ça? En 1900, il y a un chercheur qui va au pied de l'Himalaya et qui revient et qui dit, là-bas, les gens vivent 100 ans. Bravo. Et vous savez pourquoi ils vivent 100 ans? Parce qu'il y a un peuple qui s'appelle les Hunza. Les Hunza, ils ont une recette particulière de pain et ils vivent 100 ans. Waouh! Traînée de poudre dans le monde, pain Hunza. Tout le monde mange du pain Hunza. 20 ans plus tard, le type est inspecteur du fisc aux États-Unis. 20 ans plus tard, il y a des chercheurs qui viennent voir et qui regardent la population Hunza. Waouh! Ils ne meurent pas centenaires, ils meurent plus vite que les autres. Donc le pain Hunza, bidon. Ça n'empêche pas qu'il y a 10 ans de ça, j'ai reçu des publicités pour le pain Hunza. Vous voyez ce que c'est l'imprégnation? On appelle ça, nous, en nutrition, d'un mot qui s'appelle la pensée magique. C'est-à-dire, quelle influence a l'aliment sur nous? Quelle influence il a? La viande, synonyme de muscle, de force, parce qu'il y a des protéines, donc on mange de la viande pour être fort. On donne de la soupe aux enfants, parce que ça fait grandir. Si vous avez déjà vu un gosse grandir avec de la soupe, franchement, je doute. Donc on attribue aux aliments un pouvoir magique et on a créé ce concept de super aliment. Quand on regarde bien, en fait, c'est une erreur stratégique. Qu'est-ce qui est intéressant dans notre santé? Vous avez 5 facteurs intéressants dans la santé. Vous avez 1, l'immunité. Bon, vous savez ce que c'est, les anticorps, les antigènes, etc. Vous avez un rhume, vos cellules vont se protéger. 2, vous avez le microbiote, c'est nouveau. Le microbiote, en ce moment, c'est vraiment la voie de recherche la plus importante. Comment une bactérie, nous qui avons été des enfants de Pasteur, comment une bactérie peut être bonne? Une bactérie est bonne. Ça veut dire que quand vous donnez certains produits, par exemple le lactobacillus bulgaricus, qui est la bactérie la plus ancienne découverte par Metchnikov, quand vous prenez ce ferment qu'on utilise pour cailler le lait, enfin pour fermenter le lait et en faire un yaourt, quand vous en mettez dans le corps d'un individu, il a 46% de possibilités supplémentaires de se défendre. Donc ça veut dire que c'est vachement important. Et on commence à savoir de plus en plus de choses sur le microbiote. On sait également que l'Alzheimer, chez les Alzheimer, on ne retrouve pas la même distribution bactérienne dans l'intestin que les autres. On sait que quand on greffe le microbiote d'une souris qui n'est pas allergique aux œufs à une souris qui est allergique aux œufs, elle est plus allergique. Donc c'est une voie de développement, donc c'est le deuxième paramètre de microbiote. Le troisième paramètre, c'est quelque chose dont on parle peu, c'est la régénération de l'ADN. Ça veut dire que dans toutes vos cellules, vous avez des chromosomes. Au bout de chaque chromosome, vous avez ce qu'on appelle un télomère, c'est le bout du chromosome. En fait, avec les années, il diminue. C'est pour ça qu'on meurt. Il baisse. Mais il y a des aliments qui vont avoir la propriété de le restaurer, de le faire grandir un peu plus, et des aliments qui accélèrent sa dégradation. Donc le télomère, c'est vachement important. Vous avez ce qu'on appelle la régénération vasculaire. Et puis le cinquième facteur, vous avez les cellules souches. Et là, je suis ravi d'avoir entendu récemment que la loi biotique va relâcher la pression sur les cellules souches. Avant, les cellules souches, c'était le truc des escrocs. C'est-à-dire qu'on vous disait, on vous faisait sous le manteau des piqûres de cellules embryonnaires. On récupérait le placenta, on récupérait le cordon ombilical, on extrayait vaguement le tissu, puis on injectait ces cellules. Ça se fait beaucoup en Asie, et on disait que c'était une cure de jeunesse. Mais en fait, les cellules souches, ceux qui ont suivi l'affaire de Schumacher, Schumacher est allé à l'hôpital Georges Pompidou pour tenter une greffe de cellules souches pour essayer de régénérer son cerveau. Et on commence à savoir que ces cellules souches, elles seront peut-être l'avenir de la médecine. Déjà, on sait aujourd'hui réparer un infarctus avec des cellules souches. Ah, on ne fait pas tout le monde et dans tous les hôpitaux, hein, mais on sait que quelqu'un qui a eu un infarctus, on va lui greffer des cellules souches. Ces cellules souches vont devenir des cellules cardiaques et elles vont réparer l'infarctus. Donc ça, ce sont les vrais paramètres. Donc au lieu de penser en termes de super aliments, au travers de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire les super aliments, chacun aurait le pouvoir de nous aider, ben non, il faut raisonner sur quels sont les aliments qui vont aider le microbiote, régénérer les vaisseaux, réparer l'ADN, améliorer l'immunité et faire fonctionner mieux nos cellules souches. Et là, par contre, on a beaucoup de notions. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des groupes d'aliments. Par exemple, si je veux améliorer le microbiote, je vais manger des fibres. Les fibres, c'est en quelque sorte l'engrais des probiotiques, c'est-à-dire c'est l'engrais du système bactérien que vous avez dans l'intestin. Donc, je vais manger des fibres et puis je vais manger des produits fermentés. Donc voilà, dans les recommandations qu'on doit faire aujourd'hui, on doit faire ça. On doit dire, il faut que les gens mangent des fibres, avec certains privilèges pour certains aliments, il faut que les gens mangent des produits fermentés. Et d'ailleurs, les produits fermentés, ça m'a toujours... intrigué, pourquoi on parlait toujours du lait fermenté, le lait turc ou le lait qui venait du Moyen-Orient, le kéfir, alors qu'en fait on a un lait en Bretagne qui est vachement connu des Bretons, qui s'appelle le lait ribot. Le lait ribot, c'est un lait fermenté. Donc voilà comment on peut améliorer la santé des gens en travaillant non pas sur des aliments, mais sur des groupes d'aliments. Après, les peurs alimentaires, elles vont se manifester autour des régimes particuliers. Alors vous en avez deux, trois qui émergent à l'heure actuelle. Vous avez le régime sans gluten. Donc on a dit à un moment donné que la population était devenue extrêmement sensible au gluten. Et comme elle est extrêmement sensible au gluten, on s'est dit qu'il va falloir enlever le gluten de l'alimentation. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. C'est vrai qu'on ne savait pas ça. On ne savait pas qu'il y avait des gens qui étaient susceptibles au gluten ou des gens qui étaient intolérants au gluten. Ce n'est pas des allergies. Celles-là, on les connaissait, mais intolérants et susceptibles. En fait, nous, ça ne nous dérange pas, parce que quelqu'un qui mange sans gluten, c'est quelqu'un qui mange des sucres lents. Un nutritionniste, ce qui l'intéresse, c'est les valeurs nutritionnelles des aliments. Donc, il mange des sucres lents, il peut manger des pommes de terre, il peut manger du maïs, il peut manger du sarrasin, il peut manger du quinoa. Ok, il y a des sucres lents, il peut manger du riz, donc c'est pas grave s'il ne mange pas des pâtes, de la pizza ou du pain. La deuxième chose, c'est que par contre, ce régime sans gluten, il donnait une amélioration au niveau digestif qui était transitoire, mais il a conquis une partie des gens jusqu'à se transformer. On finira tout à l'heure avec les régimes. Il finira par se transformer en un régime amaigrissant. On ne sait pas pourquoi, alors que ça n'a jamais été un régime amaigrissant. La deuxième catégorie de régimes qui ont beaucoup progressé, des régimes particuliers qui ont beaucoup progressé ces derniers temps, ça a été les régimes végétariens et avec son collatéral, les régimes véganes. Le régime végétarien, c'est vieux comme Hérode, c'est des gens qui ne mangent pas de chair animale. Est-ce que ça nous pose un problème? Pas beaucoup, en fait, parce que végétarien, pas de chair animale égale pas de protéines, donc on va remplacer les protéines animales par des protéines différentes, les protéines des produits laitiers, des œufs, essentiellement, ou des protéines végétales de temps en temps. Seul déficit possible, c'est carence en fer, c'est vrai, c'est possible, particulièrement chez la jeune fille post-pubère, c'est-à-dire au moment où les jeunes filles commencent à avoir leurs premières règles, elles ont des pertes de sang, et comme elles sont en organisme de croissance, ça va se développer, et donc la perte de fer est beaucoup plus importante, mais après tout, c'est pas très compliqué de compléter une perte en fer. Au régime végétarien, on s'en fout. Enfin, si ça leur fait plaisir, c'est quelque chose qui progresse. Le monde va se végétaliser. De toute façon, on y est obligé, mais le monde est en train de se végétaliser de plus en plus. Donc, les régimes végétariens, vous voyez d'ailleurs, ne serait-ce que quand vous faites vos courses, au restaurant, on a toujours un plat végétarien, on a toujours dans un supermarché une galette végétarienne, etc. Donc, ça va se végétaliser. Et le deuxième régime, c'est un autre... Alors, c'est la sensibilité vis-à-vis de la souffrance animale. C'est la relation à l'animal domestique. Ça veut dire... Ben voilà, les petits-enfants, c'est vrai que nos enfants n'aiment plus manger de viande quand on leur dit que le beefsteak qu'ils ont dans leur assiette, ben, il vient d'une vache ou d'un bœuf qu'ils ont connu parce qu'ils sont passés devant à la campagne, ou le poulet, c'est la même chose. Après, les régimes végans, le régime végétalien, pardon, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on élimine là toutes les protéines d'origine animale, y compris les œufs, le lait, ça pose plus de problèmes, parce que là, il y a des déficits en vitamine B12, la vitamine B12 qui est vraiment un cofacteur très important de l'organisme, et puis les mêmes déficits en fer. Donc, c'est un régime compliqué, et là, c'est promu, la promotion de ce régime, elle se fait pour la souffrance animale aussi, puis c'est une forme de contestation. Moi, je compare souvent les gens extrémistes, en tout cas, en disant que à une certaine époque, quand on faisait la révolution, on était trotskiste, maoïste, ou même d'extrême droite, pour certains, et qu'aujourd'hui, la vraie révolution, c'est la révolution écologique. Ça veut dire les gosses de 17, 20 ans, en fait, leur vraie révolution, elle est écologique. Ça veut dire... on combat contre le monde moderne, etc. Mais c'est une forme de révolution comme une autre. Donc ça, c'est régime végétarien et végétalien. Puis on a le fameux régime sans sucre. Pourquoi ? C'est à cause de toutes les alertes qu'on a lancées, et c'est vrai. Le sucre est un promoteur de la croissance des cellules cancéreuses. Donc non seulement en excès, il est le promoteur de maladies comme le diabète et comme l'obésité, mais il est le promoteur quand même de la prolifération des cellules cancéreuses. C'est archi démontré. On a une relation stricte entre cancer du sein et consommation de sucre, donc les gens se sont mis à faire régime sans sucre, et par extension, des régimes sans sucre complètement, y compris les sucres lents, ce qui est une erreur, on doit conserver une part de sucre lent. Tout ça pour dire, dans le complément de ce que je vous disais sur vous choisissez vous-même votre alimentation, c'est pour ça que vous la choisissiez auparavant, géographique, économique, traditionnelle, etc. Et aujourd'hui, vous la choisissez aussi en fonction d'une définition sociétale, c'est-à-dire, je mange gluten, je mange végétarien, comme si on avait affaire à des communautés alimentaires, et ça nous ennuie en nutrition, parce que il y a quand même, la nutrition c'est quand même la science de la transmission, ça veut dire on se nourrit parce qu'on a vu se nourrir, donc cette façon de manger raisonnée, elle désorganise les paramètres nutritionnels. Et un être humain, il a besoin d'avoir un minimum de choses pour fonctionner normalement, à moins qu'on spécule sur l'épigénétique, c'est-à-dire notre capacité extraordinaire à évoluer en fonction de notre environnement. On a su résister à la famine, est-ce qu'on saura résister à l'abondance? Enfin, dernière catégorie que je vais évoquer avec vous, c'est l'histoire des régimes alimentaires. C'est vieux comme Hérode aussi. De tout temps, les individus ont cherché à transformer leur corps, à maigrir, à avoir la peau soyeuse, selon les cultures. Dans le monde africain, on veut grossir. Dans le monde occidental, qui est très abondant, on veut maigrir. Et alors là, on est dans le système marketing le plus développé du monde. Je lisais récemment les nouveaux régimes. Maintenant, comme il n'y a plus de nouveaux régimes, parce qu'en fait, il y a trois types de régimes. Il y a sans sucre, sans graisse et sans sucre et sans graisse. Il n'y a rien d'autre. Mais après, on va les appeler différemment. Alors, le régime pégan, là, que j'ai vu récemment, c'est un mélange de paléo avec un mélange de vegan. Bon, ok, il a mixé les deux. Pas d'intérêt. De toute façon, ce qui fait maigrir, c'est l'abaissement de la consommation énergétique. Donc, s'il le fait, machin... la chrononutrition, c'était comme le petit déjeuner, c'était le même slogan, je mange comme un roi le matin, un prince le midi, un esclave le soir, bon voilà, le slogan marche bien, donc on adhère au régime, aucune preuve scientifique de son efficacité, il y a une réduction de l'apport énergétique, c'est que comme ça que les gens maigrissent. Et très récemment, vous avez le célèbre « comme j'aime », qui s'est pris une vraie volée de bois vert ces derniers temps, qui était quoi ? Qui sort sur une tendance, c'est-à-dire simplification de l'alimentation. Il veut simplifier l'alimentation. C'est-à-dire, on vous livre tout près de quoi maigrir. C'est la recette magique, mieux organisée. Mais au total, vous avez trois problèmes. Un, les plats préparés, ça veut dire le plastique, les aliments super transformés, et surtout des formations du goût. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Les gens qui veulent maigrir, c'est un travail, c'est un effort, ça demande de la patience, il faut s'organiser, il faut quand même manger équilibré et en bonne santé. Voilà, si vous deviez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est sûrement le fait que vous devez, un, garder le plaisir quand vous mangez. C'est vachement important. Deuxièmement, je dirais aussi la relation au corps. Tous les corps sont beaux. Gros, moyen, etc. Tous les corps sont beaux. Et ne pas aimer son corps, c'est pas un phénomène de société, c'est autre chose. C'est se contester soi-même. Donc tous les corps sont beaux. Donc il faut apprendre à aimer son corps. Et troisième chose, moi je trouve votre ville très agréable. J'ai été très surpris. J'ai fait le tour grâce à Catherine et grâce au maire, donc David, que j'ai découvert. Vous avez un environnement qui est assez agréable et vous êtes auprès de la mer, donc vous avez de la chance parce que vous êtes balayé par les vents, donc moins de pollution qu'ailleurs. Vous avez des produits de bonne qualité parce que vous avez beaucoup de terres agricoles au sous et beaucoup de bétail. Donc je pense que vous allez vivre très vieux et je reviendrai d'ici une vingtaine d'années pour vous refaire une conférence. Merci. Que je réponde à vos questions, mais j'ai l'usage de le faire. Donc je ne peux pas déroger à cette tradition. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser, je vous réponds. Si elles sont trop personnelles, je le ferai après. Si elles sont générales, je vous répondrai.
Donc je vais descendre parmi vous pour poser ceux qui voudront poser des questions au docteur Jean-Michel Cohen. Ce sera avec grand plaisir. Auparavant, donc j'ai une question plutôt généraliste à vous poser. Quelle sera l'alimentation d'ici 15 à 20 ans? Parce qu'elle est sans cesse en évolution, vous l'avez décrit précédemment. Donc quel est l'avenir? Que va-t-on devenir en fait?
Viande de synthèse, là c'est le secteur sur lequel ça a le plus progressé. En Californie, à l'heure actuelle, on commence déjà, c'est pas encore sur le marché, mais on fabrique des steaks de synthèse. On met des cellules souches de viande en culture et on refabrique un steak. Donc voilà, deuxième évolution, on va végétaliser plus le monde. Donc vous mangerez plus de légumes et de fruits sans avoir besoin de réfléchir. Et vous mangerez probablement des insectes. Donc désolé, mais... alors ceci dit... je vais vous faire un aparté. J'ai été au Zaïre il y a quelques années et j'ai mangé quelque chose de délicieux. C'était des feuilles de ngombo. C'est un arbre. Bon, ça vous rappelle comme les algues hein, ou comme les feuilles de lotus qu'on trouve dans certains restaurants exotiques. À l'intérieur, il y avait de la farine de manioc qui avait cuite au feu et il y avait des chenilles atacidées. Alors moi, je suis curieux de ça. La chenille atacidée, c'était comme un bulot finalement. Ça avait un peu de goût, et surtout c'était plus de 50% de protéines. Donc en fait, on mange en fonction de son environnement. Ils ont mangé des chenilles pleines de protéines, de la purée de manioc, on n'en mange pas beaucoup nous, mais c'est des sucres lents et des végétaux avec la feuille. Voilà. Donc on peut manger les végétaux. Pour l'instant, c'est dégueulasse. Franchement, je me tape toutes les dégustations pourries du monde. Et franchement, je le fais par confiance professionnelle. Mais manger un scarabée grillé avec du sel, c'est pas fun. Je préfère les chips. Et parce que ça a la même consistance. Ça craque sous la dent, je sens rien, je sens le sel, je sens la graisse. Voilà. Manger les vers de terre desséchés, ouais, c'est pareil, quoi. Je préfère les petites allumettes là, qu'on trouve en supermarché. Donc voilà. Mais si vous me demandez l'avenir de l'alimentation, ça sera ça. Et puis vous aurez deux types de populations. Vous aurez une population qui va manger super organisée, la boîte en métal avec tout ce qu'il faut pour avoir tout ce qu'il faut pour notre corps, et puis à côté de ça vous aurez l'homme qui veut manger l'œuf qui sort du cul de la poule, c'est-à-dire le monde va se partager dans le tout biologique et le tout rationnel, mais on ne sera plus là.
Une autre question, récemment nous avons appris le décès d'un jeune enfant qui avait été contaminé quand il s'était caché. Je pense que la question est la suivante. Par rapport à ça, il y a donc prise de conscience de ce phénomène, et pourtant les familles et les enfants continuent quand même de manger des steaks hachés. Donc voilà, je pense qu'entre le fait et après la réalité, il y a une continuité qui est étonnante. Donc à quoi peut-on rattacher ça?
Ben, ça me fait plaisir parce que j'ai oublié de vous parler de ça. Quand on a parlé des peurs alimentaires tout à l'heure, je vous ai parlé de dioxines, nanoparticules, résidus de pesticides. En fait, la première des peurs alimentaires, c'est l'intoxication alimentaire. On en a eu deux preuves récemment. Deux preuves. C'est-à-dire qu'avant, il y a 100 ans, vous aviez toutes les semaines 50 cas d'intoxication à Escherichia coli. C'était normal puisqu'on ne savait pas stériliser, on ne savait pas faire ça. Et aujourd'hui, quand il y en a un... Pardon pour lui, mais quand il y en a un, ça fait la une des journaux. Donc ça veut dire qu'on a super progressé quand même. L'affaire du petit Nolan est une affaire d'escroquerie. Il faut être clair, c'est un type qui vend des beefsteaks cachés à une restauration collective, qui s'exonère de les contrôler, de contrôler chaque lot, et qui dit qu'il va les contrôler de façon aléatoire. Ça veut dire qu'il en prend un de temps en temps, il vérifie s'il n'y a pas de microbes, il pense que les 9 autres sont bons. Donc c'est une escroquerie. Et il transfère des steaks sur lesquels il y a de l'Escherichia coli à une école, en l'occurrence le petit Nolan est tout jeune, il est bébé quasiment, hein, je crois qu'il a 18 mois, et donc il est particulièrement sensible à ce germe, il développe des troubles neurologiques, il meurt à l'âge de 10 ans. Voilà, c'est ce qui démontre que nous sommes débiles. Ça veut dire qu'au lieu de s'inquiéter des nanoparticules et des résidus de pesticides, commencez par laver votre frigo toutes les semaines, nettoyez-le, parce que c'est un réservoir à bactéries. Vous savez que quand vous vous embrassez sur la bouche, vraiment, hein, vous... décharger l'un l'autre 80 millions de bactéries. 80 millions de bactéries. N'en profitez pas, monsieur le maire. Donc vous savez, il y a ça. Donc nettoyez votre frigo de temps en temps, c'est un réservoir à bactéries. Quand vous achetez vos pots de yaourt et vos compotes, soyez gentils. Est-ce que les compotes ont été touchées par l'homme? Non, il y a un emballage cartonné au-dessus. Lui, il est plein de saleté. Eh, allez-y, vous prenez le temps, c'est plus facile. On ne met pas l'emballage, il faut décartonner le produit et mettre les yaourts à l'intérieur. Mais ça, personne ne le fait. Par contre, on va dire, voilà, ouais, j'ai acheté du bio à 3 fois le prix, mais pour prévenir une maladie, un lymphome hodgkinien dont on m'a parlé et qui pourrait survenir si j'ai pas de bol dans 40 ans. Donc voilà notre idée aussi. Ça vous dit pas que j'achète du bio de temps en temps. Vous descendez. Catherine descend, faites gaffe.
Bonjour.
Bonjour.